Bonjour à tous. Nous allons poursuivre notre réflexion, notre méditation dans ce livre de Tite. Au chapitre 2, mais quelques rappels tout d'abord, c'est que dimanche dernier, Adrien nous a enseigné sur la place de notre culture d'origine, et cela après notre conversion. La question était, les chrétiens des églises de Crète étaient-ils des crétois chrétiens ou des chrétiens crétois? Se basant sur différents versets, entre autres les versets 12, 13 et 16 du chapitre 1er, où il est dit « Afin qu'ils aient une foi saine, nous avons vu qu'ils doivent être avant tout des disciples de Jésus-Christ, une nouvelle création en Christ, comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, quand on est en Christ, on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses sont devenues nouvelles. » Donc les chrétiens de Crète doivent être avant tout des chrétiens crétois, et non des chrétois chrétiens. Je vais vous mettre des nœuds. Rappelons aussi que Tite avait pour mission de mettre de l'ordre au sein des différentes églises qui étaient à Crète, et d'y établir des anciens. Nous le voyons ça dans le verset 5 du chapitre 1er. Mais soyons certains, mettre de l'ordre n'est pas toujours un travail facile. Et surtout quand il y a des habitudes liées à une culture locale. Et si cette culture locale est ensuite plus ou moins opposé aux principes bibliques, nous pouvons imaginer le travail de Tite dans ce que Paul appelle mettre en ordre ce qui reste à régler et y établir des anciens. On constate aussi, pour encore souligner que le travail de Tite n'était pas facile, il dit qu'il y avait même des opposants, il y avait ces juifs rebelles, enseignant pour un gain honteux ce qui ne doit pas être enseigné. Et l'apôtre rajoute que ces gens soient et la bouche fermée, auxquels il faut fermer la bouche. On ne prendrait pas ce terme-là aujourd'hui. Et puis, l'apôtre Paul relève une attitude générale qu'il juge ainsi qu'il faut les reprendre sévèrement. Et ce qui est formidable, c'est que l'apôtre Paul se réfère même à un de leurs prophètes, poète philosophe, qui dénonce cette attitude générale, cette habitude du peuple de Crète. On a posé le cadre, une mission difficile pour ce jeune pasteur laissé à Crète. Le chapitre 2 démarre par « Pour toi, dis ». C'est direct et net. Au verset 1, il est dit « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. » Et au dernier verset du chapitre 2, il est dit « Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité. » Paul est en train de booster ce jeune pasteur à faire face à quelque chose qui pourrait, devenir très difficile. Il le prépare à une situation d'opposition. Trois impératifs donc. Dit, exhorte, reprend. Et nous trouvons ces termes-là dans 1 Timothée 4. On va prendre 1 Timothée 3, versets 14 à 17, si c'est bien ça. Est-ce que je me suis trompé dans mes versets ? Je t'écris ces choses afin, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été magnifié. Ainsi et de suite, je ne pense pas que ce soit le verset que je cherchais. C'est 2 Timothée. 2 Timothée 4, 2. Où il est dit, verset 1er même, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ces termes-là sont adressés aussi à Timothée. Trois impératifs. Pour un pasteur, la croissance des chrétiens passe par ces ordres selon les cas, selon les situations. Au chapitre 3 de 2 Timothée, verset 14, il est dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Paul dit à Tite ces trois impératifs. Il faut que tu les utilises. Tu n'es pas là pour regarder les autres. Il faut dire quand il faut dire. Il faut encourager quand il faut encourager. Et même s'il le faut, reprendre s'il faut appliquer la discipline. Mais quoi dire ? Sur quelle base doit-on dire les choses ? Nous avons dit tout à l'heure que la mission de Tite n'était pas facile. Alors, l'apôtre Paul va lui donner des bases solides sur quoi se référer. Alors, l'apôtre Paul va résumer l'évangile en quatre points. Au chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 14, nous voyons ces quatre points essentiels qui vont être la base de la construction de la vie de ces nouveaux chrétiens. Chapitre 2 de Tite, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Grâce, source de salut. Un premier point, l'apôtre Paul rappelle le salut par la grâce. Deuxième point, le suivant. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Deuxième point, le renoncement à l'impiété, c'est-à-dire un changement de vie, une transformation de vie. On a fait comme cela avant, maintenant on fait comme ceci. Changement d'attitude et de pensée. Troisième point qu'il aborde, le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Changer de vie, pourquoi? Parce que le Seigneur nous met cette espérance d'être auprès de lui un jour. C'est la finalité que le Seigneur donne. Être dans la gloire pour l'éternité. Le chrétien ne doit pas oublier que la transformation de sa vie aujourd'hui est une préparation à cette rencontre avec le Seigneur. Vivre l'éternité avec son Seigneur. Quatrième point. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Le fait d'être un peuple appartenant à Jésus, purifié par lui, zélé pour des bonnes œuvres, car ayant été racheté à grand prix. Résumons ces quatre points. L'apôtre rappelle à Tite qu'il doit enseigner que les Crétois qui sont devenus chrétiens se rappellent de leur salut par grâce. Et s'ils sont sauvés, ils doivent changer de vie. Et leur changement de vie a une espérance, c'est-à-dire un jour se retrouver face à face avec son Dieu. Être conscient d'appartenir à un peuple qui appartient à Jésus. Quatre points. Le dernier point, le fait d'appartenir à Jésus, nous le voyons encore dans Pierre. 1 Pierre au chapitre 2, où il est dit, « Vous, au contraire, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Les chrétiens crétois devaient donc se rappeler qu'ils sont sauvés, que leur vie doit prouver qu'ils sont sauvés, qu'ils aient une espérance éternelle et qu'ils font partie d'un peuple appartenant au Seigneur. Et cela, c'est l'Évangile. Résumé d'une manière en quatre points, mais c'est l'Évangile. La parole de Dieu va devenir donc, dans la mission de Tite, la base même de son enseignement. Et ce principe reste inchangé, même aujourd'hui. Cela concerne tous les domaines de l'enseignement, de l'encouragement et de la discipline. Nous abordons donc, à travers ce chapitre 2 de Tite, les règles de vie dans l'Église. Le processus de transformation dans la vie de chaque chrétien. Et vous voyez ce jeune pasteur arriver dans chaque église et annonçant ces quatre points. Mais il a affaire à qui? À des hommes, des femmes, des personnes âgées et des personnes plus jeunes. Alors l'apôtre Paul donne des pistes qui vont être un enseignement précis. Et rappelons-nous, il y a un fond où il faut mettre de l'ordre. Il dit par exemple, le verset 2, « dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints, dans la foi, dans l'amour, dans la patience. » Une première piste qui s'adresse aux personnes âgées. Hommes. Et là, il fait la différence entre homme et femme. Et vous verrez la différence. Et vous constaterez que on appelle les personnes âgées à avoir une attitude, un comportement qui s'accorde avec leur âge. Des personnes patientes. Des personnes qui ont vécu et qui ont de l'expérience et qui maintenant reconnaissent la place de la patience dans leur vie. Pas des personnes qui exagèrent les choses. Ils sont modérés, ils sont honnêtes, ils sont sobres. Ils sont pleins d'amour. Première piste. Et à ces personnes âgées, hommes, le jeune doit dire tout cela en se basant sur les quatre points de l'évangile dont nous avons parlé tout à l'heure. Salut par grâce, une vie transformée, l'espérance d'être auprès du Seigneur et le fait d'appartenir à un peuple qui appartient au Seigneur. Deuxième piste, et vous allez voir que c'est très intéressant. Dis à que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. S'adresser à des sœurs qui sont âgées. Et vous constaterez que, contrairement aux hommes, ici l'apôtre Paul donne une mission aux sœurs âgées. Bizarre, hein? D'habitude, on sait, les hommes, vous vous levez, hein? Vous allez faire ceci, cela. Et là, ce sont les sœurs qui sont appelées à prendre en charge les jeunes femmes. Et vous ne verrez pas dans la suite une exhortation qui dit à Tite, dit aux jeunes femmes. C'est d'une logique dans le cadre de la culture locale des Crétois. Un jeune pasteur n'accompagne pas une jeune femme car il y a des risques. Déjà, le risque du ragot. Même s'il n'y a rien qui ne se passe, le ragot peut arriver. Oh, le pasteur a discuté 30 ans avec une telle jeune femme. Et ça induit à des suspicions dans l'église. Et là, les personnes âgées, les femmes âgées, vous déterminerez la notion d'âge, hein. Je vous laisse déterminer ça. Mais les sœurs d'expérience doivent prendre en charge les sœurs qui démarrent leur vie. Sur la base de l'évangile. Ici, nous voyons aussi du côté de Tite la sagesse de Paul de le préserver de toute difficulté liée à des relations avec des jeunes femmes. Dans sa mission, dit aux femmes âgées et à travers elles aux jeunes femmes toutes les recommandations. Vous avez de la place, vous avez une mission, les chères sœurs, pour s'occuper de nos jeunes femmes, filles. Le troisième point, c'est exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Pourquoi il n'utilise plus l'impératif du verbe dire, dit ? Mais au jeune, il dit exhorte. J'ai été frappé pour ce changement de mot. Exhorte les jeunes gens. Paul préconise à titre d'être un modèle et une source d'encouragement pour les jeunes qui sont à peu près de son âge. Modèle et encouragement. C'est, je ne sais pas, aujourd'hui on appellerait, Paul il a une attitude qui connaît les personnes, ainsi de suite. Il fait une étude particulière parmi la relation humaine, il a fait de la psychologie. Et là, il préconise à Tite d'être un modèle et une source d'encouragement pour les jeunes qui sont à peu près de son âge. Quatrième point, exhorte les serviteurs. Alors, du temps de Tite, ce n'était pas les employeurs, des fonctionnaires, à la sécurité sociale ou quelque part dans un établissement public. Non, c'était des esclaves. Des esclaves qui sont devenus chrétiens. Et à cela, il préconise aussi l'encouragement. Parce que ces esclaves-là ont, dans leur vie d'esclave n'était pas facile. Ils reçoivent du matin au soir des ordres qu'ils ne peuvent pas contester. Et dans l'Église, l'apôtre Paul leur préconise à titre plutôt de les encourager. Ils ont plus besoin d'encouragement que de directives. Et on peut utiliser les mêmes enseignements à travers un encouragement. Dire aux personnes âgées d'avoir une vie digne. Dire aux personnes âgées de sexe féminin de s'occuper des jeunes femmes. Les enseigner les principes de base de la vie selon l'Évangile. Dire aux jeunes gens, plutôt encourage les jeunes gens et sois un modèle pour eux et pour les serviteurs. Encourage-leur parce qu'ils sont déjà dans une situation d'oppression. Ils ont plus besoin d'encouragement. Nous avons vu la base, l'Évangile en résumé. Nous avons vu des pistes de personnes qui sont dans l'Église, dont le jeune pasteur va parler, communiquer, mettre de l'ordre. Mais il faut savoir, il faut toujours se rappeler que sa mission est de mettre en ordre ce qui reste à régler et d'y établir des anciens dans chaque ville. Mais quel est l'objectif de des règles de vie dans l'Église, et en particulier l'application de la discipline? La discipline n'est pas toujours crier après quelqu'un. Ça ne veut pas dire du tout ça. La discipline, c'est ce que nous venons de voir à travers les quatre points. Personnes âgées, hommes, femmes âgées, jeunes gens et les esclaves. La mission du titre est toujours de mettre en ordre ce qui reste à régler. Paul dit même, et s'il faut agir avec autorité, il faut passer par la notion d'autorité. Selon les situations, Paul parle des situations graves dans les versets 1, 11 et 13. Et nous en avons déjà parlé au début. Par exemple, ces juifs rebelles enseignant un gain honteux auquel il dit qu'il faut les fermer la bouche. Et d'autres qui, tellement préoccupés de leur ventre qu'il faut les reprendre sévèrement. Les règles de vie dans l'Église et la discipline dans l'Église font partie des responsabilités des anciens. Du temps de Tite, comme dans notre société permissive aujourd'hui, il est difficile d'appliquer la discipline en général. Pourquoi ? Et cela même dans l'Église. Hein? Pourquoi ? Parce que par nature, nous n'aimons pas ça. Alors que le Seigneur Jésus en parle lui-même. Dans Matthieu 18, le Seigneur Jésus en parle. Prenons Matthieu 18. Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Jésus en parle. Mais ce qui m'a frappé dans l'enseignement de Jésus, c'est ce qui précède et ce qui suit cet enseignement-là. Vous savez ce qui se passe avant ? Eh bien, c'est la parabole des 100 brebis. Et Jésus termine la parabole des 100 brebis au verset 14 du chapitre 18 de Matthieu en disant ceci : de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses brebis. Et la suite, verset 21. Il est question du pardon. Et alors Pierre s'approcha de lui et dit : Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère ? Ainsi de suite. Ainsi, selon le Seigneur, la correction ou la discipline dans l'Église est une action de sauvetage. Et non le plaisir de faire la discipline, pour la discipline. D'ailleurs, Jacques nous en parle clairement, l'épître de Jacques. Au chapitre 5, versets 19 et 20, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Mettre de l'ordre dans plusieurs églises en même temps et d'y établir des responsables, c'était la mission de Tite dans cette île de Crète. Et ce n'était pas facile. Nous lisons cette lettre comme cela, rapidement, comme ça, comme une lettre à la poste, je dirais. Mais au fond, il était prêt à affronter des oppositions. Il devait donc appliquer, non annoncer seulement l'évangile, mais aussi appliquer, dire les choses avec autorité, et même reprendre certaines personnes. Oui, sa mission était difficile en raison des attitudes et des pensées bien enracinées dans la culture locale. Pourtant, le but est d'amener les chrétiens crétois à vivre l'état d'une nouvelle création en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans Éphésiens 4, 11 à 15. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter là? Si on s'arrête là, l'homme ou la femme qui a reçu une discipline, l'application de discipline, pourrait avoir de la rancœur envers l'ancien, le pasteur, le responsable de l'Église. Parce que peut-être cette personne n'a pas compris que l'action de correction ou l'application de la discipline, pour lui, n'est pas une action de sauvetage. Alors l'apôtre Paul laisse un enseignement clair quant au regard vis-à-vis de ses pasteurs, ses anciens, ses responsables. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Quel regard vous portez envers ces responsables d'église qui, dans une situation particulière, se lèvent et appliquent la discipline et les règles de vie dans l'église? Hébreux, au chapitre 13. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors la question se pose, parce qu'ici, dans la lettre de Paul à Tite, en résumé, Paul demande à Tite d'établir une règle de vie dans l'Église. Et s'il le faut, à certains, il faut fermer la bouche, à d'autres, il faut reprendre sévèrement. C'est marqué. Nous ne sommes pas en Crète ici, mais nous faisons de la partie de l'Église du Seigneur. Et nous faisons partie de cette Église qui lui appartient. Nous faisons partie de ce peuple qui lui appartient. Et c'est lui qui met les règles. C'est pour ça que l'apôtre Paul rappelle l'Évangile. Vous avez été sauvés à grand prix. Votre vie doit changer. Vous avez une espérance de la vie éternelle. Et vous faites partie d'un peuple qui lui appartient. purifiés et zélés pour de bonnes œuvres. Alors, dans l'Église, la vie est conduite par cela. Alors le travail de l'ancien n'est pas facile. Et en particulier, ce qui me frappe, c'est que ici, la lettre a été adressée à un jeune pasteur. Ça veut dire qu'il est encore en plus en difficulté. C'est pour ça que le respect a toujours existé dans la communication. Dit aux chrétiens âgés, aux hommes âgés, dit aux femmes âgées, dit aux jeunes gens, dit aux serviteurs. Et chaque situation reflète une sagesse dépendant de l'Évangile. Alors, je pose la question pour finir. Comment vivons-nous aujourd'hui les règles de vie, dont la discipline, dans l'Église? Chacun d'entre nous, nous sommes concernés. Même les anciens. Parce qu'avant tout, ils sont chrétiens, hein, n'est-ce pas? Alors, je répète les bases de l'Évangile dont l'apôtre parle. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Si elle a été manifestée, c'est qu'on l'a vue, on le voit. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. À Timothée, il rajoute, que personne ne méprise ta jeunesse. Que la parole de Dieu nous enseigne aussi sur ces situations difficiles qui peuvent arriver dans l'Église. Merci de votre attention.